Chapitre 2e. La série des montagnes du Morvan, puis les collines du Gâtinais, maintinrent dans la direction du nord la voie ferrée, et les alpilles de Comblaville, puis le contrefort de Charenton, la dirigèrent irrévocablement sur Paris. Dans le wagon, Juliette relisait la première page de son carnet. Jamais depuis son enfance elle n'était passée près d'un carrefour de sa destinée sans en noter les abords. Jamais elle n'avait laissé disparaître sans se ménager un recours l'humain qui aurait pu, le cas échéant, devenir son mari. Le carnet lui permettait, pendant qu'il était temps encore, d'approcher, de voir, de toucher les 7 ou 8 existences qui eussent été sans Gérard ses existences possibles. Depuis 15 ans, d'une écriture qui avait changé, mais d'une encre invariable, car il y a 2 pensions mais un seul papetier à Aigueperse. Juliette avait noté tous les points de repère qui lui permettraient de retrouver un homme à peine entrevu. Astucieusement, en se rendant invisible et modeste, au lieu de suivre l'exemple des myopes qui ôtent leur lorgnon dans le voisinage d'une jolie femme pour paraître plus beau, et se privent ainsi de la voir, elle avait tout observé, tout transcrit, et il lui semblait partir pour lever, dans Paris, des balances tendues depuis son enfance. « Je suis, » disait la page 21 du carnet, « au théâtre de Vichy. » Les 2 dames, mes voisines, pendant le spectacle, se sont mises à rechercher l'homme le plus parfait qu'elles aient connu. Monsieur Falière est dans la salle. L'une est très âgée. L'autre est jeune et revient d'un voyage au Turkestan. Voici l'entracte et soudain, les 1000 spectateurs disparaissent, me laissant seul avec ces sorcières qui vont me donner le secret de ma vie. Si l'on excepte le duc de Massa et un petit chef de gare russe nommé Samov, à la station même de Samarcande, l'être le plus parfait est un jeune homme qui n'a quitté que d'hier leur hôtel. Je le manque d'un jour. Une nuit a été la cloison entre nos 2 existences. Il s'appelle Rodrigue. Il est milliardaire. Il a une automobile bolée. Il continuera, disent-elles, l'élevage des bêtes bizarres qu'élèvent ses parents. Je n'ose regarder la dame jeune, mais j'apprends par cœur le visage de la dame âgée. Encore malhabile, Juliette marquait les croisements de sa destinée de repères bien volages ou bien périssables, présence d'un président de la République, d'une voiturette bolée, d'un visage voué à une mort prochaine. Toute la description du visage de la vieille dame suivait. En effet, avec chaque ride, chaque bijou, description passionnée, car Juliette croyait décrire ainsi le transparent d'un visage jeune et inconnu, suivait même la description de certains chardonnerets, car elle avait rencontré la jeune dame le lendemain au parc, près d'un massif où nichaient des chardonnerets, moins jaunes que les autres, aux œufs plus ovales, avec des crêtes vertes, dont elle avait recherché la variété dans le Larousse, écouté le cri, et qu'elle aurait reconnu ainsi les yeux fermés. Tel était le hasard qui avait lié Juliette, plus que toute autre jeune fille, aux animaux féroces. Tout le long de ses études secondaires, à cause de Rodrigue, le tigre, le jaguar, avait trotté comme les animaux de Perrault le long de ses études primaires. Cher Marie, qui, au lieu de recourir à notre système métrique, comptait par bond de jaguar, par foulée d'hyène, par longueur de boa. Cher amant, qui, au lieu d'équations et de monomes, intervertissait dans les cages l'ordre du loup et des panthères. Les premières leçons d'art, de peinture, de sculpture servirent seulement, pour elle, à embellir, à fortifier dans son imagination les formes, les fourrures et les griffes des fauves. Toute la nourriture généreuse que lui donnait la pension Formeau profitait à une ménagerie immense. Toute cette pression de science qui élargit aux yeux des élèves Balzac, Hugo et Napoléon, pour elle gonflait à éclater les onces de Néron et le lion d'Androclès. Tout oiseau un peu coloré qui l'effleurait, tout chat un peu tendre qui sautait sur elle, était un message, était échappé à son premier amour. Cher René, qui pouvait à la minute, simplement en poussant la porte de son jardin, contrôler sur les intéressés le sophisme de la tortue, le daltonisme du buffle. Quelle réponse vigoureuse et naturelle elle faisait aux inspecteurs généraux, qui croyaient son cerveau hanté de la lymphatique ménagerie scolaire, sphinx, griffon ou licorne. Il s'étonnait. Il ne savait pas que l'étalon de vitesse était pour cette jeune auvergnate le goéland, de force le grizzly. Tel était celui qu'elle avait, au seuil de l'enfance, marqué avec Falière et des chardonnerets, et dont elle essaya, dès l'après-midi, de découvrir l'adresse à la Société protectrice des animaux. Le secrétaire était là, qui brossait une dépouille d'oiseau de paradis et la collait sur un mannequin. Il la maintint des deux mains pour que la colle prît, comme jamais ne fut maintenu oiseau de paradis vivant, là-bas, en Nouvelle-Guinée, après sa capture au piège. « Éleveur d'animaux bizarres » répéta-t-il. « Expression bizarre, mademoiselle. J'ai vu des hommes bizarres. J'en ai vu par milliers. Jamais une seule bête, si vous appelez bizarre, comme moi, l'être qui agit en non-conformité avec sa nature, qui dénonce le contrat conclu avec l'espèce. Un banquier, par exemple, est bizarre, qui accepte qu'on le paie en papier au lieu d'or. Je vous serais vraiment obligé, mademoiselle, de me citer des bêtes bizarres. J'avais pensé, dit Juliette rougissante, des tapirs, des agoutis. Vous me répondez, mademoiselle, par ce chien de sainte qui va matin et soir tirer la cloche de l'église. On en fait grand bruit, parce que sainte est la première paroisse où a été sonné l'Angélus. Moi je trouve bizarre, non le chien, mais le curé, qui permet le scandale. Mais enfin, dit Juliette, un tatou est un animal bizarre, on ne peut pas dire le contraire. Un banquier, oui, mademoiselle. Pour le tatou, vous tombez mal. Je suis inspecteur de la société, je visite les fêtes foraines, et depuis 6 ans, je vois justement une fois par semaine un couple de tatous qui creuse sans arrêt le sol pour fuir sa lampe d'acétylène, regagner le soleil des Incas. Le Barnum les présente comme deux animaux qui recherchent les trésors, affolés par tous ceux que recèlent Pantin et la Roquette. Ils ont eu la semaine dernière un fils. Toutes les petites encoches de son test pour scier le schiste mexicain sont déjà visibles. Tout son vertex pour écarter la fourmi colombienne est déjà constitué. Les 60 boucliers de ses lombes sont déjà articulés pour écraser le manioc bolivien. On peut déjà le lâcher impunément dans le continent pour lequel il fut créé. Je défie n'importe quel banquier de Paris de me montrer un fils aussi rapproché de l'archétype. N'insistez pas, mademoiselle. Vous êtes jeune. La bizarrerie des hommes vous réserve des surprises. Savez-vous ceux qui chantent le plus chez les hommes, qui chantent le plus en cœur? J'ai habité près d'un orphelinat, ce sont les orphelines. Il se leva. C'était un vieillard qui n'avait pu, au cours d'une longue vie, apprendre à s'habiller. Ou plutôt il paraissait habillé de l'intérieur. Ses chaussettes mordaient sur ses pantalons, qui eux-mêmes mordaient sur le gilet. Comme il saluait Juliette, ses bretelles cassèrent. Ah! Comme les vêtements seraient plus commodes et ajustés si, au lieu de les enfiler, on les collait au corps avec la colle adoptée dans les succursales de la société protectrice pour les dépouilles d'oiseaux de paradis. Il est doux, pour une âme bien née, de gravir pour la première fois les pentes de Sainte-Geneviève et de découvrir, ombragées de branches profanes qui dépassent de vieux murs et connaissent tout de la vie et des scandales de la rue alors que le tronc de l'arbre lui-même vit au milieu des séminaristes, les sources tranquilles de ces lignes d'autobus qu'on ne voit généralement que bruyantes et gorgées par leurs affluents. Juliette allait à l'école normale supérieure, sur les conseils du secrétaire. Aux alentours du Panthéon, tous les lycées ou pépinières où s'élèvent ceux qu'on enterrera sous ce dôme étaient ouverts et leurs pensionnaires en vacances. C'étaient les vacances. Pas un seul futur sauveur de la patrie, pas un futur inventeur de rythme, pas un seul futur parrain de métal et d'astre qui ne fut en ce moment jusqu'au cou dans la mer ou attaché à un guide par une ficelle. La girouette du Panthéon n'indiquait guère qu'à Jean-Jacques Rousseau, qu'à Berthelot, que le vent soufflait du sud. Aux terrasses des tavernes, de beaux Anglais regardaient Juliette. Par un réflexe de sa coquetterie, n'ayant jamais mis de rouge, ni de poudre, ni sur son visage de fausse indifférence, ne sachant trop comment répondre au regard de désir, c'était ces sentiments que Juliette fardait. Jamais bel Anglais n'avait regardé âme plus poudrée, pudeur plus distinguée, dévouement à la vie mieux sanglé. Juliette allait, engourdie par le soleil, dans l'incapacité absolue, tant le fait de n'être pas gaucher prime tout sous le regard des jeunes Anglais, de ne pas prendre la première rue qui s'offrait à sa droite. Bien lui en prit. Tourner à gauche lui menait à Polytechnique, alors qu'elle trouva soudain normal sous ses pas. L'école normale était entr'ouverte, comme le sont aussi, la nuit et le dimanche, le palais et le quai d'Orsay, la République exigeant que tout citoyen puisse se jeter à quelque heure que ce soit dans la science, la justice et la politique étrangère. Après avoir traversé une première cour carrée où le passant était épié par les 60 bustes des grands hommes qui, sur le mieux observé, Lavoisier, Cuvier ou Chevreul, puis un jardin bordé par la rue Claude Bernard et où tout promeneur était épié, plus scientifiquement encore, par 60 concierges. Juliette parvint à l'enclos où l'observation semblait cette fois personnifiée par un jeune homme qui étudiait au microscope sous l'auvent d'une baie ouverte et qui riait. C'était le préparateur en sciences naturelles de l'école et l'homme dont le rire était commandé par la tragédie la plus minuscule de la création, quoique la plus logique endurée, car il surveillait sur un fragment d'étamine le mariage de l'Ardisia crispia qu'il faut 2 ans pour féconder. Juliette lui posa sa question sur les éleveurs d'animaux bizarres, mais il essaya de la détourner vers le règne végétal, feignant d'entendre par animaux bizarres les animaux les moins mobiles, comme le brochet ou l'huître, et, par analogie, les végétaux migrateurs. C'est ainsi, lors de l'agrégation, que son maître l'avait lui-même détourné de la zoologie vers la botanique, et il tenta de convaincre Juliette. Que ne lui raconta-t-il pas des plantes ? C'est chez elle seule, affirmait-il, que Juliette trouverait la bizarrerie, l'étrangeté, la folie. Elle ne pouvait imaginer à quelle opération les fleurs peuvent se livrer et complaire, infidèles s'il en fut aux promesses faites à l'espèce. Avec son cinématographe, il montra à Juliette l'éveil des étamines chez les végétaux dioïques, l'alliance avec lui-même du zinnia. Il sortit d'une serre la plante la plus sensible qui existe. Le céphaloa lolana, qui jette par ses fleurs un jet d'eau quand on la tourmente, la plante qui pleure. Aucun contrat de l'espèce pourtant n'a jamais obligé une plante à pleurer. Il chatouilla la céphaléa d'une paille, les larmes vinrent à ses propres yeux. Il lui décrivit aussi la criée des dahlias aboscope en Hollande, l'aiguille se mouvant sur un cadran avec des numéros éclairés par les lampes rouges qu'actionnent les acheteurs, tout cela dans le silence, un peu tristement, comme si les dahlias s'achetaient eux-mêmes. Il s'emporta. Tout ce qu'on peut dire pour inspirer à une jeune fille le dégoût des êtres qui boivent le dubonnet, qui mangent de la blanquette à l'ancienne, et surtout, quelle impuissance! Qui marche, et l'amour des êtres qui communiquent entre eux, non par des cris, mais par des lianes, non par des serrements de mains, mais par des mélanges d'ombres, le dégoût des vésicules, des ventricules, l'amour des tissus, des pollens, fut avancé par ce jeune homme, d'ailleurs agréable, et dont les yeux, une fois privés de microscope, semblaient des organes exclusivement destinés à voir chez le prochain les qualités végétales et morales. Tout ce que peut dire en faveur des petits synipses, ces insectes qui se chargent de tout dans le mariage du figuier, un homme qui voit que vous êtes franche, bonne, indomptable, avec des tendances à la sensualité, fut dit par le préparateur, il alla jusqu'à couper pour Juliette, en disant d'ailleurs que c'était la fleur qui fleurit tous les siècles, la fleur qui fleurit tous les lustres. En vain, Juliette se leva, non sans la pensée qu'il serait doux, dans une dizaine d'années, de rechercher, de retrouver ce jeune et charmant botaniste. Elle nota son nom sur le carnet, s'arracha au petit jardin avec l'énergie du premier animal quand il cessa d'être plante, et partit, surveillée de loin par le préparateur de minéralogie, aujourd'hui sans aucune chance. Le soir était venu, Juliette redescendit la colline. Peu voyageuse, elle n'avait pas le sentiment de contempler Paris, mais d'être contemplée par lui et par chacun de ses édifices. Devant chaque coupole, chaque clocher, comme devant des microscopes géants, elle se sentait traversée et jugée par un siècle, une vertu, et son squelette et les parties stables de son âme étaient différents pour chacun de ses radiums. Même devant les monuments dont elle attendait le moins qu'ils l'intimidassent, l'Institut océanographique, la Tour Eiffel surtout, d'un œil qu'elle s'apprêtait à colorer pour la nuit, Juliette sentait sa vie et ses secrets à vif. Elle essaya de jouer au plus fort. Comme l'alouette n'a d'autre recours que de se poser sur le canon du chasseur, elle alla se placer au centre même du Panthéon, puis devant le tombeau de Victor Hugo lui-même. Elle allia 1 minute pour résister à cet examen des édifices illustres, sa jeune vie inconnue aux fantômes de tous ceux qui avaient, en France, répondu personnellement au Créateur et qui, allongés maintenant dans la crypte, semblaient, au contraire de ceux de Saint-Denis issus d'un seul ancêtre, les ascendants d'un monarque encore à naître. Elle erra parmi ces grandes ombres, chaque vertu et chaque talent en elle décoloré par leurs formidables vertus et talents correspondants, sa pauvre sincérité par celle de Rousseau, son petit talent d'impromptu par celui de Voltaire, son habileté à l'aquarelle par celle de Puvis, et elle se sentait un pauvre insecte translucide. Certes, Elle avait conscience de posséder une vertu irréductible, qui était la vie. Mais, par modestie et par pitié, elle évitait devant les sarcophages tout geste qui eût pu la montrer trop vivante, et elle sortit du caveau à l'anglaise, comme si, venue pour toujours, elle avait oublié là-haut son sac ou son mouchoir. Elle y avait oublié le soleil, le Luxembourg. Elle s'assit dans le jardin. Chaque vivant, chaque passant redonnait à son âme l'opacité première. Elle retrouvait avec amitié ses plantes jadis indifférentes, ses arômes, ses ricins, ses fuchsias rencontrés tout à l'heure à l'école normale et qui ne la transperçaient aucun regard, à part un camélia. En quoi un camélia est-il un édifice, sur lequel elle dut poser sa main, comme sur les yeux d'un curieux. Les semences jetées dans son âme par le petit préparateur germaient d'ailleurs déjà. De grands platanes avaient poussé pour elle, depuis son dernier passage, des rosiers embaumés. La garde républicaine avait terminé son concert et la foule se distribuait, selon l'effet qu'assurait la musique militaire, entre les statues et les os. Ce fut l'heure où Juliette, trompée depuis 20 ans par la manie de son oncle et qui n'imaginait plus qu'un obélisque ou une stèle fussent consacrés à d'autres qu'à des traîtres, effleurant une statue d'un regard machinal, vit un visage souriant, s'approcha pour voir l'inscription et lut Théodore de Banville. Ce n'était pas Iago, ce n'était pas Ganelon, c'était Théodore de Banville. Elle se leva. Elle caressa le premier visage de pierre qui personnifiait pour elle une vertu. Elle parcourut, libérée, ce jardin où les félons s'appelaient enfin Zénaïde Fleuriot, Ferdinand Fabre. La race des hommes de pierre était soudain régénérée. La race des hommes de chair y gagna. Chaque être vivant, assis ou debout sur la terrasse, parut un petit monument élevé à lui-même. Confiante à nouveau, Juliette descendit à grands pas vers la société d'acclimatation. Monsieur Guillet, le vice-président, était assis devant son courrier du soir. Les lettres étaient nombreuses, car il venait d'être guéri miraculeusement d'une péritonite et les correspondants des sociétés d'acclimatation du monde entier le félicitaient. Chacun, en cadeau de convalescence, lui annonçait sa dernière trouvaille en animaux, en insectes ou en légumes inconnus et la lui dédiait. L'univers, en l'honneur de cette fistule, avait jusqu'à ce soir pavoisé 35 nouvelles variétés d'êtres, dont 12 comestibles. De chaque continent s'élevait, à la gloire du vice-président Guillet, une saveur nouvelle, des cris inédits. Aux îles Samoa, aiguille avalée le siècle précédent, le serpent Baïa disparu des Indes depuis Duplex était ressorti de la planète. Du flanc meurtri de Monsieur Guillet, pour le paradis des naturalistes, avait ainsi surgi l'Hydropotos parisianis, le Cervus guilloti, la Lymphaea peritonitanea, et que ne surgirait-il pas, pensait mélancoliquement le convalescent, de la terre remuée au jour prochain de sa mort. Il écrivait justement au tableau tous ces noms latins nouveaux, ces litanies qui n'avaient jamais encore été ni chantées, ni même prévues pour aucun personnage divin quand Juliette entra avec une rose à son corsage. C'était une rose commune. Monsieur Guillet la regarda un moment comme une rose nouvelle. Cela lui était arrivé d'ailleurs toute la journée, pour les œillets, pour la salade. Quelle forme nouvelle de la vie cette jolie fille apportait-elle? Il vint l'écouter de tout près, comme si elle allait lâcher un écureuil. D'ailleurs, il y avait des grillages aux fenêtres ouvertes. Non pas que M. Guillet eût des enfants en bas âge, mais rares étaient les humains qui pénétraient dans ce local sans un petit jaguar dans un panier ou un oiseau dans leur poche. Juliette expliqua quel jeune homme elle recherchait et donna les repères fournis par les deux dames, initiales du prénom R, du nom B, parents célèbres dans l'art d'élever les animaux bizarres. Juliette se défiait des hommes. Elle ne se sentait pas sûre au milieu des animaux. D'où vient qu'elle se trouvait tellement à l'aise au milieu de ces hommes voués aux animaux. Car Monsieur Guillet n'était pas seul. Il y avait avec lui les trois êtres humains dont les empreintes digitales peuvent se rencontrer le plus fréquemment sur les bêtes malades, herbivores ou carnivores. Il y avait là le secrétaire de la société de protection, du corps duquel venait de jaillir un nouveau vêtement, encore pris dans le faux col et le caleçon, un par-dessus, à boutons cousus à l'envers. Il y avait là monsieur du Loa de Ray, de Marnes à Entrailles, ruiné mais épanoui, affamé mais gras, qui signait maintenant du Loas de Ray, de Marnes à Entrailles, car son nom était le miroir de sa vie, qui n'avait guère été qu'une longue série d'apocopes, qui avait été la contraction misérable d'à peu près autant de beaux sentiments qu'il avait de titres, et, à mesure, faute d'argent, de chance et d'amour, que sa loyauté fusionnait avec son goût pour la bonne chère, son courage avec le non-ressemelage de ses souliers, il laissait le nom de son aïeul Loa, ami de Blanche de Castille, se fondre avec le Ray de l'Ogre et celui du compagnon de Jeanne d'Arc avec le Marne de Pépin. Il en était aujourd'hui à se demander s'il n'écrirait pas son nom en un unique mot, car sa vie éculée, sa misère uniforme, correspondait assez à du Loa de Ray de Marne's entrailles. Et il y avait aussi là un vieillard qui n'avait pu se venger sur son nom des infortunes de sa vie, car il s'appelait Bi, auquel des malheurs particulièrement choisis, mort d'une femme adorée, mort du fils unique, avaient laissé seulement l'apparence d'un être accablé de menus et légers accidents, bousculades, tuiles sur l'épaule, et que les plus épouvantables malheurs avaient seulement marqué de plâtre et de cambouis. D'une timidité telle que, lorsqu'il avait demandé un numéro au téléphone, on ne le voyait plus, il s'enfuyait de honte, il devenait plusieurs heures invisible. Tels ils étaient tous quatre, qui se croyaient réunis par l'amour du canari huppé, et qu'assemblait en fait l'amour pour les trois autres, l'amour pour ce qu'il y a de plus digne dans l'humanité et de ce que la vie a traité le plus indignement. Ils s'étaient réunis aujourd'hui pour protester contre l'usage fait par les spirites des canaris huppés, race spécialement résistante, dont Usapia et Eva comprimaient un représentant dans un recoin de leur voile ou de leur corps et le délivraient quand elles prétendaient ramener leur double astral des Indes ou de Madagascar. Béni soit le canari huppé qui avait été prendre chacun sur le quai de l'horloge, l'un d'eux-mêmes, Monsieur Bi, bien plus près de la Seine, déjà penché sur elle, et les avait guidés par ses vols jusqu'à cette salle, dernière enclave au monde du paradis, où se continuait par des croisements entre le canari et le bouvreuil la besogne de création interrompue un samedi à minuit par Dieu. Le secrétaire prenait part à la conversation par des phrases qui n'avaient aucun rapport avec elle, mais qui cependant, mieux qu'un résumé textuel et ainsi que l'argument des chants dans les poèmes épiques, exprimaient de ton général et le niveau des âmes. C'est ainsi qu'après l'exposé de M. Duloa contre Eusapia, il avait dit. Un abbé qui a beaucoup voyagé avait-il dit, m'a dit, la mer, c'est comme la confession, terrible ou fastidieux. Évidemment, avaient répondu ses trois amis, et c'est alors que Juliette était entrée, guidée par un canari invisible. Je ne vous dirai pas tous les détails de la rencontre, ni comment Juliette, en les quittant, fut amenée à les embrasser tendrement. À leur vue, elle avait éprouvé cet accès de confiance que l'on n'a guère qu'une fois dans sa vie, et encore à l'égard de personnes peu susceptibles de se moquer des secrets ou de les trahir, l'océan, la première étoile ou la chanson de l'oiseau dans Siegfried. Un accès de confiance tel que le secret à confier n'en a plus d'importance, cède le pas à des descriptions de meubles anciens ou à des histoires de chasse, et disparaît dans une plénitude de sympathie pour l'univers, pour les antiquaires, pour les dadas, comme le soleil d'été dans son rayonnement. Eux aussi, mis en confiance, lui racontèrent pourquoi ils avaient manqué leur vie. « J'ai manqué ma vie par ma faute, » avoua M. B. « Il me suffit peut-être, pour être heureux, de consulter les statistiques. Mais, avec une femme anémique, j'ai accepté un poste dans le département où meurt le plus de pulmonaires. Avec un fils audacieux, j'ai sollicité mon changement pour le département où l'on compte le plus d'accidents de montagne. Maintenant, enfin, par ironie, j'habite la ville où il y a le plus de centenaires. Je sais tout cela depuis peu. La statistique m'a vaincu. J'ai suivi l'itinéraire Nice-Grenoble-La Ferté alors que mon bonheur exigeait Pau, Tours et le chemin des Dames. J'ai manqué ma vie, dit Monsieur Guillet, parce que je n'ai jamais traité un seul être au monde comme il aurait fallu. J'ai traité par exemple les hommes comme on traite les femmes et inversement. Je croyais les hommes sensibles, ardents, nerveux, de santé faible, je les menais à la musique, je les comblais de prévenances, de flatteries. Je croyais les femmes réservées, musculaires, non susceptibles. Je leur disais leurs faits, je les réveillais tôt. De là vient que ma vie est perdue. J'ai traité les chats comme on doit traiter les chiens, j'essayais de les convaincre, je les raisonnais, et j'ai été au contraire plein de réserve et de hauteur pour des chiens qui sans nul doute m'ont adoré. J'ai fait le malheur de ma vie. Celui qui ne sait pas se conduire exactement vis-à-vis de chaque espèce est perdu. Vis-à-vis des antilopes seulement, j'ai conscience d'avoir réussi. Elles me suivent, elles me lèchent. Tout cela a commencé le jour où, au lycée, j'ai embrassé le pion qui dormait. Heureux ceux qui ont embrassé la bonne! Dans les répertoires des vies de héros depuis Saint-Louis, dit à son tour Monsieur Duloas, je crois que les Loas, entre toutes les familles de France, revendiquent le plus fort pourcentage. Mais ils ne peuvent être que héros. Dès qu'Aloas admet un rythme moins rapide ou une conception moins tendue de l'existence, il doit se rendre au Mont de Piété et donner des leçons. Seuls les héros et les saints dans ma famille ont réussi à garder leurs diamants. Seuls les Loas martyrs ont été décorés. J'ai essayé de suivre leur exemple, mais l'intensité d'honneur, de témérité, de vertu qu'il m'a fallu porter et maintenir au rouge pendant 3 mois, simplement pour passer mon baccalauréat, m'a découragé pour toujours. Et vous, monsieur le secrétaire ? Le secrétaire prit son temps. Quand meurt, dit-il enfin, quand meurt une personne aimée à laquelle vous devez une lettre, si vous êtes égoïste, vous vous en réjouissez. Si vous êtes bon, vous n'aurez de tranquillité qu'après avoir écrit cette réponse. La phrase du secrétaire, servant, on ne sait pourquoi, de transition entre les 3 discours et les désirs de Juliette, amena M. Guillet à chercher dans l'annuaire de la société le jeune homme parfait. 2 collègues répondaient au signalement. Même âge, même initiale. Le fils Belvoir et le fils Blanche-Marine. « Je connais le fils Belvoir, » dit M. Duloas. « C'est le contrôleur pour le Harper's Magazine de toutes les histoires d'animaux. Vous vous rappelez que Roosevelt s'était désabonné après avoir lu dans cette publication un conte du pasteur Burke d'après lequel les renards se feraient mutuellement des pansements et Harper ne souffre plus qu'il soit publié sur aucun animal d'affirmations invraisemblables. Le fils Belvoir m'envoie chaque trimestre le recueil des passages qu'il est contraint d'échoper ou de corriger dans les auteurs français. Nos écrivains d'ailleurs passent dans les pays anglo-saxons pour connaître aussi peu les bêtes que les enfants. L'idée que se fait Bourget de la simple chèvre, mot passant du homard, prétend Harper, dépasse vraiment l'imagination. Harper cherche également un censeur analogue pour les actions des hommes. L'idée que se fait de Jules Laforgue le stupéfie. « Son prénom ?» demanda Juliette. « Romuald, » dit M. Guillet. « Ce n'était pas cela. »« Alors, » dit M. Guillet, « votre futur mari est le fils Blanche-Marine, dont les parents tiennent au Brésil la ferme des serpents venimeux élevés pour les instituts pasteurs. Je l'ai rencontré chez M. Rollina, d'Argenton, où il faisait un stage pour étudier l'aspic du Berry, celui-là même, où les berrichons vont-ils se nicher, qui piqua Cléopâtre. » Être charmant, habitué à saisir les Wauchops, qui vous touchaient d'une main hardie, et juste à la place du bras où la pression vous rendait inoffensif. Pour arrêter l'ami qui médisait, la femme qui commençait à haïr, Blanche-Marine les saisissait doucement et renaissait l'amitié et l'amour. Il voyait du premier coup d'œil si vous étiez de ceux que l'on calme par le cou ou par la taille ou par l'épaule. Une recherche excessive peut-être dans ses souliers et ses chaussettes, peut-être parce qu'il était américain du Sud, mais surtout parce que c'est à la jambe qu'il attendait la mort, piqué à la cheville comme presque tous ses aînés. Les agrafes de ses jartels étaient d'or garni de brillants. « Son prénom ?» demanda Juliette rougissante. Une fois, interrompit le secrétaire, l'un de mes ancêtres emmena à la guerre de 7 ans un petit fox nommé Friquet. Il l'y perdit. Quelle ne fut pas sa surprise, la guerre achevée, de voir arriver un beau jour d'Allemagne le petit Friquet à sa maison de Touraine. « Son prénom ?» insista Juliette. « Friquet, » dit le secrétaire, mais il revint avec un collier qui portait en caractère gothique Bellof. « Il s'appelle Rodrigue, » dit M. Guillet. Juliette ferma les yeux. C'était bien son nom. Rodrigue et Juliette. Elle répéta ses 2 prénoms, et tous les prénoms, aussi que les poètes croyaient avoir accolés pour l'éternité, se dégagèrent et formèrent des couples nouveaux. Roméo s'unit à Armide, Béatrice à Pétrarque, aux 4 coins des grandes amours, Desdémone au Cid. Rodrigue et Juliette, ils étaient enfin mariés. Ces 2 prénoms que tout romantisme, tout classicisme, que le génie semblait à bout de bras avoir écarté pour toujours. Avis aux écrivains. Une nouvelle gravitation pour les cœurs était créée. Ou plutôt, dit M. Guillet, ah, mademoiselle, quel chagrin je cause. Ou plutôt, il s'appelait Rodrigue. Il s'appelait. Ah, la menace de cet imparfait terrible. Tous les couples dépareillés se reformèrent avec fracas. Béatrice et Dante, Desdémone et Othello reprirent, avis aux annales, leur perpétuel accouplement. Car je trouve dans ce dossier, continua M. Guillet, la lettre suivante qu'on m'envoie du Haut-Paraguay et que mon opération m'a empêché de lire. Monsieur Guillet, Cette semaine a été funeste, car nous avons eu la douleur de perdre notre ami Rodrigue Blanchemarine. Vous savez combien il aimait nos convoyeurs Guarani. Il nous forçait à apprendre leur langue, car il n'y avait aucune chance qu'ils apprissent la nôtre. Leur langue qui n'emploie que des mots d'amour, est parfois si excessif que le chargé d'affaires de France au Paraguay dut retirer sa fille de l'école à propos du simple vocabulaire de la leçon de couture. Les repas, la chasse aux orchidées, la pêche du poisson ferrugineux que l'on attire hors de l'Orénoque avec des aimants, tout n'était ainsi pour nos Guaranis et pour nous que des opérations amoureuses. Soleil, lune, singe trouant le plafond de ces orchidées qui poussent dans les premières fourches de troncs lisses jusqu'à 40 mètres, tout n'était qu'organe et qu'instrument d'amour, et quand il nous arrivait de parler français entre nous, nous éprouvions ce froid qui saisit le corps quand on sort d'un fleuve tiède. Songez, monsieur Guillet, que l'adjectif Guarani se place au cœur même du mot, l'article au cœur de l'adjectif, l'apostrophe au cœur de l'article. Nous voyons quelquefois de loin nos Guarani caresser les indigènes, les embrasser. C'est qu'ils discutaient, c'est qu'ils demandaient le guet. Une seule femme Guarani était avec nous, qui servait à doubler encore, monsieur Guillet, la volupté de notre vocabulaire, car chez les Guarani, la langue des femmes et celle des hommes sont différentes. Un de nos chasseurs d'orchidées se fit une entorse à la plus haute fourche d'un acajou et Rodrigue s'offrit pour le descendre. C'est alors, hélas, que nous eûmes à employer le mot Guarani le plus tendre, celui qui désigne la mort. Ah, qu'il nous fut pénible de mettre au centre de ce mot le prénom du petit Blanchemarine et chacune de ses vertus. Car il ne voulut pas, à mi-hauteur de la corde à nœud, lâcher le blessé qu'il tenait à deux mains et arrêter dans son élan le serpent minute qui le suivait sur le tronc depuis le fait. Chaque Guarani, quand il fut mort, suça la piqûre pour qu'il pénétrât guéri dans leur ciel, adora la jartelle des fêtes, étendu près du mollet comme un serpent divin et yeux brillants nés du sacrifice, et nous avons hissé, selon leur coutume, le cercueil au faîte du plus grand des arbres et au-dessus même des fleurs. Le secrétaire pleurait. Bien des gens, trouva-t-il la force de dire, croient que le mot Bayonne est la forme la plus ancienne pour désigner la ville. Erreur profonde. Elle s'appelait la Bourdomme. C'est ainsi que la faune du monde fut écartée de la vie de Juliette. C'est ainsi que par la mort de Rodrigue, de même que l'ami intime de Citroën, du jour où il s'est brouillé avec Citroën, voit l'univers sillonné, non plus de messages amicaux, mais de tacos indifférents, s'éteignirent en l'âme de Juliette toutes ces parentés qu'elle croyait avoir avec les bêtes.